L'Académie reconnaît les contributions exemplaires des chercheurs aux sciences de la santé, la qualité et le caractère novateur de leurs découvertes, ainsi que leur rôle de chef de file dans le domaine. Parmi les intronisés dont je vous parlais, il y a Pierrette Gaudreau, Gilles Lavigne, Anne-Marie Mez-Masson et Julie Carrier, qui est avec nous en ce moment en studio. Et c'est un privilège de vous recevoir, Julie. Bonjour.
Bien, merci beaucoup. Bonjour.
On s'est déjà parlé ensemble sur un autre plateau. Votre champ d'expertise, c'est celui du sommeil.
Tout à fait.
Et puis, ben, on avait l'idée aujourd'hui de vous inviter tout d'abord pour vous féliciter. Peut-être qu'on peut commencer par ça. Vous pouvez nous parler de cette admission à l'Académie. Qu'est-ce que ça représente à vos yeux?
Mais en fait, évidemment, ça a été un grand honneur d'être intronisée à l'Académie. Mais c'est aussi, je dois dire, une grande responsabilité parce que, en fait, l'Académie canadienne est aussi un organisme qui tente vraiment de trouver des solutions pour augmenter la qualité de la santé, en fait, pour les Canadiens. Donc, il y a une responsabilité qui vient avec ça, mais pour moi, c'était aussi une occasion incroyable, puis j'espère pouvoir utiliser les forces de l'Académie, en fait, pour promouvoir ce qui, pour moi, est mon domaine de recherche et d'expertise, donc augmenter aussi ou trouver des solutions pour augmenter la qualité du sommeil des Canadiens et des Canadiennes.
L'intronisation se fait comment? Est-ce que c'est voté par des pairs ou c'est un examen des recherches?
Oui, en fait, il faut qu'il y ait un membre de l'Académie qui vous mène à la nomination, mais ensuite, c'est un comité qui évalue toutes les demandes puis qui sélectionne les gens qui sont intronisés cette année-là.
OK, donc si je comprends bien, une fois que l'intronisation est faite, le travail ne s'arrête pas là, il y a quand même d'autres... C'est comme une porte d'entrée vers de plus grandes recherches, on le sait.
Oui, mais en fait, c'est une porte d'entrée vers une implication aussi au niveau de l'avancement de la qualité de la santé des Canadiens. Donc, le groupe se penche sur des questions qui sont d'actualité puis essaie de trouver des solutions aussi, tant au niveau politique, recherche, etc., pour promouvoir certains aspects de la santé.
Le sommeil, c'est d'actualité puisque c'est cyclique, ça revient chaque jour, ou en tout cas, on l'espère ou on le souhaite. Est-ce que vous pouvez me parler de la recherche sur le sommeil? Il y a peut-être des gens qui n'en ont jamais entendu parler, mais il y a vraiment des chercheurs qui s'intéressent à ça et avec raison parce que c'est une grande partie de notre santé là, qui repose sur le sommeil.
En fait, il y a plusieurs chercheurs, beaucoup de chercheurs dans le monde, mais à Montréal aussi, on est vraiment, au Québec, je dirais, une plaque tournante aussi de la recherche sur le sommeil, comme juste au Centre d'études avancées en médecine du sommeil où je travaille, que je dirige aussi à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. On est 15 chercheurs à temps plein qui travaillent à temps plein sur essayer de comprendre pourquoi on dort, puis surtout aussi comprendre quels sont les mécanismes qui expliquent le fait que certaines personnes ou populations n'arrivent pas à bien dormir pour essayer de trouver des solutions aussi.
Est-ce qu'avec le vieillissement de la population, ça va devenir davantage un enjeu, les problèmes de sommeil?
Tout à fait. Moi, mon domaine d'expertise, c'est justement les changements qui s'opèrent avec l'âge au niveau du sommeil. En fait, notre sommeil change de notre naissance jusqu'à notre mort. Hein. S'il y a quelque chose qui change continuellement au cours de la vie, c'est notre sommeil. Mais à partir du milieu de l'âge adulte, il y a vraiment une diminution importante de la qualité du sommeil, puis une augmentation aussi très importante des plaintes associées au sommeil, puis associées aussi à la qualité de la vigilance. Donc moi, ce que j'essaie de faire dans mon laboratoire, c'est de comprendre pourquoi le sommeil se change autant à partir du milieu de l'âge adulte. Est-ce qu'il y a des conséquences à ces changements-là? Puis, évidemment, à long terme, on voudrait bien trouver des solutions pour diminuer aussi les plaintes qui sont associées à l'âge.
Est-ce que ces solutions-là, c'est seulement des solutions chimiques ou il y a des solutions dans la routine également?
Il y a énormément de solutions dans la routine. Ce qui se produit principalement avec l'âge, c'est que notre sommeil se fragilise. On perd beaucoup à partir de la quarantaine du sommeil lent profond, qui est le sommeil le plus intense.
Et le plus récupérateur?
Oui, le plus récupérateur, mais surtout le plus fort, je dirais, quand on dort vraiment profondément. Ce qui se produit avec ça, c'est que notre sommeil se fragilise. Comme on dort moins profondément, bien, notre sommeil devient aussi plus fragile à toutes les interférences qui peuvent interférer, le stress, la caféine. Donc, tout ce qui ne nous réveillait pas à 20 ans
va nous réveiller,
peut fort bien nous réveiller à l'âge de 40
ans. Plus difficile de se rendormir aussi.
Plus difficile de se rendormir, plus d'éveil, etc.
Donc, est-ce que c'est vrai, ça, que le fameux cycle du sommeil dont on entend parler, que on rentre dans une phase de sommeil profond, puis que si on est seulement pour dormir 3h30 et qu'on a un cycle de sommeil de 5h, c'est mieux de pas dormir du tout?
Non, absolument
c'est
pas.
C'est pas vrai?
Moi, je le dis toujours, il faut dormir. Il faut essayer de dormir le plus possible. D'ailleurs, chez les jeunes, le gros problème, c'est pas leur qualité de sommeil. Habituellement, les jeunes dorment très bien, mais c'est le fait qu'ils considèrent que le sommeil est pas important. Donc, il faut dormir le plus possible. En fait, c'est impossible de trop dormir, quoique si on commence à dormir beaucoup plus qu'on dormait, ça peut être le signe que quelque chose va pas. Mais en général, vaut mieux dormir que de pas dormir. Donc, la population actuellement est beaucoup plus orientée vers des patrons de privation chronique de sommeil. Donc, la plupart des gens trouvent ça plus productif de rester réveillé que de dormir ce qu'ils sont supposés dormir. Puis, on lance un cri d'alarme. En fait, c'est vraiment important de préconiser ou de valoriser le sommeil de façon aussi significative qu'on valorise pour la santé physique,
l'hygiène alimentaire,
manger
etc.
bien, puis faire l'exercice physique.
Mais par exemple, si on a déterminé ou calculé que moi, j'avais un cycle de sommeil complet de, disons, 7 heures, si je peux faire la grasse matinée demain et dormir jusqu'à 9 heures, est-ce que c'est dangereux d'aller chercher ces 2 heures supplémentaires-là ou je devrais au contraire en profiter?
Bien, en fait, ce qu'il faut faire, c'est un joyeux... La meilleure façon de vivre son cycle éveil-sommeil, c'est d'avoir un cycle éveil-sommeil régulier. Ceci dit, la vie nous amène parfois à ne pas pouvoir adopter un cycle éveil-sommeil régulier. Si on manque de sommeil, c'est mieux d'essayer de récupérer. Mais c'est sûr que c'est mieux pour notre horloge biologique parce qu'on a une horloge au niveau de notre cerveau d'essayer le plus possible de se coucher à la même heure, de se lever à la même heure.
Il commence à faire de plus en plus noir de bonne heure, là, on le constate, là, 17h30, 18h, c'est sombre déjà. Bientôt, on va changer d'heure en novembre. Est-ce que le cycle des saisons peut avoir une influence sur notre cycle du sommeil?
Tout à fait. En fait, la lumière, on tend à l'oublier, mais elle a vraiment beaucoup d'effets physiologiques. Ce qui se produit à l'automne, c'est qu'on perd beaucoup de photopériodes, comme vous l'avez dit. Puis il y a des gens qui vont devenir très sensibles, qui sont plus sensibles que d'autres à ce changement-là de luminosité. La première chose qu'habituellement les gens peuvent noter, c'est un changement au niveau de l'humeur, mais il y a aussi des changements qui peuvent être marqués au niveau du sommeil. Donc les gens peuvent être plus fatigués durant la journée, avoir tendance à dormir plus longtemps, mais manquer de cette énergie-là. Donc, clairement, les changements qui s'opèrent présentement peuvent affecter la qualité du sommeil des individus.
Est-ce qu'il y a moyen de se prémunir de ces changements-là?
Bien, essayer de s'exposer le plus possible à la lumière quand on peut durant la journée, quand la lumière est là. Puis, il existe aussi... la lumière n'a pas besoin d'être une lumière naturelle pour être efficace. Donc, on peut... aussi s'organiser pour que notre environnement intérieur aussi soit illuminé le plus possible. Donc, allumer les lumières.
Et ce phénomène-là n'exclut pas les personnes qui sont aveugles ou qui ont une perte de vision, qui sont également sensibles à la lumière ou en tout cas influencées par la lumière.
Il y a des gens qui sont clairement influencés par la lumière malgré le fait qu'ils n'ont pas de vision consciente parce que les cellules dans notre rétine qui s'occupent de ces effets-là physiologiques de la lumière passent par d'autres systèmes que les systèmes habituels pour la vision consciente. Donc, même si on est aveugle, donc sans être capable d'avoir une
sans
vision
consciente.
Sans connexion
vers le cerveau.
Il se peut que nous soyons quand même sensibles à la lumière environnante.
Donc, on sort dehors, on allume les lumières et puis ça devrait favoriser la transition vers l'automne prochainement. Merci beaucoup, Julie Carrier, professeure à l'Université de Montréal et chercheure spécialisée sur le sommeil, d'être venue aujourd'hui nous parler.
Ça me fait plaisir. Merci.